VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 20 décembre 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, passage en force de Joseph Kabila qui reste au pouvoir malgré la fin de son mandat, aggravant la crise politique.
Nous sommes décidés que Kabila parte. Nous n'avons plus besoin de lui.
Ce mardi, la situation est très tendue dans certaines régions de la RDC. Nous ferons le point dans un segment spécial.
Aboubacar Diakité, alias Toumba, le tombeur de Moussa Dadis Camara, arrêté à Dakar, au Sénégal.
Attentat en Allemagne et en Turquie. Dans les deux cas, la piste terroriste est privilégiée. Nous aurons une analyse.
Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Ce 20 décembre marque la fin du mandat de Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter. Il compte se maintenir en poste jusqu'à la présidentielle qui a été repoussée en 2018. La situation est très tendue à travers le pays. Un bref aperçu de cette situation avec Thierry Kabundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Et il a rencontré André Kimbunta qui est le gouverneur.
Qu'à l'heure actuelle, le bilan que nous détenons, il est 18h30, je crois 18h05. Il y a un policier qui a été tué par balle. Il y a deux femmes, l'une à Kisenso et l'autre à Kingabwa, qui sont mortes par balle perdue. Cela veut dire le policier qui voulait chasser les gens qui voulaient piller. Et il y a six hommes, deux à Kimbanseke sur l'avenue Njoku, deux à Massina Petro-Congo, un à Makala et un à Matete. Donc je confirme qu'il y a 9 morts.
C'était André Kimbunta, le gouverneur de Kinshasa.
Soulèvement sporadique dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise. Certaines avenues ressemblent à des cités fantômes. La journée a été émaillée de violences et d'arrestations de manifestants. Jusqu'à ce soir, aucun bilan exact, sauf ce que nous avons entendu du gouverneur. Mais sur place, certaines sources parlent d'une vingtaine de morts pour cette journée du 20 décembre. Charlie Kasereka.
La ville s'est réveillée sous tension et violence dans plusieurs quartiers. Des manifestants en majorité de jeunes sont sortis de leurs avenues avec casseroles et sifflets pour selon eux dire bye bye à Kabila. Malgré la nomination peu avant des membres du gouvernement de transition, un gouvernement qui a mission d'organiser les prochaines élections dans 18 mois. Pour certains Kinois, c'est une provocation.
Parce que nous attendons la 5 ans qu'ils concrétisent des choses, mais ils ont fait sortir le gouvernement hier, donc c'était vraiment bizarre.
Ils sont corrompus. J'ai dit, je répète, j'ai l'âge de 16 ans, je connais comment défendre mes droits. C'est que moi je dis, le mandat est déjà pris fin, il faut qu'ils puissent quitter notre pays.
L'armée et la police procèdent à des arrestations et dispersions de tout groupuscule de plus de 3 personnes, des fois même à l'intérieur des avenues où lacrymogènes et balles réelles étaient utilisées. Ici dans cette parcelle, un homme d'une cinquantaine a été touché à la main par une balle alors qu'il dormait encore.
Et oui, c'est une balle. C'est une balle. C'est pas, ça vient d'où ? Quelqu'un qui est dans sa maison, il dormait, des trucs comme ça, c'est pas normal.
L'on signale plusieurs arrestations dans presque toutes les communes de Kinshasa, entre autres Lemba, Matete, Ngiringiri et Lingwala, ou encore Anjili, où d'ailleurs, 3 personnes atteintes par des balles auraient trouvé la mort. Pour les arrestations, les porte-parole de la police à Kinshasa parlent des inciviques qui jetaient des pierres en direction des agents de l'ordre, en érigeant des barrières, tout en signalant qu'il est impossible au moment actuel d'établir un bilan sur ces arrestations. Et Charlie Kasser depuis Kinshasa pour VOA Afrique.
À Lubumbashi, des manifestations ont été violemment dispersées par la police. Nous avons sur place Narval Mabila.
Ici, à Lubumbashi, il est difficile d'expliquer ce qui se passe précisément car la situation est confuse. Les manifestants persistent dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Les crépitements des balles continuent à se faire entendre où la police et l'armée tentent d'étouffer les manifestants. Cela à l'arme automatique. Les manifestants sont décidés à se faire entendre de quartier en quartier, de commune en commune.
La population congolaise, avec un mouvement ici, ça suffit. Nous sommes décidés que Kabila parte. Nous n'avons plus besoin de lui.
Les autorités que nous avons joints semblent être dépassées par la situation, dont les bilans est très confus. Il y aurait entre une dizaine de morts chez les civils et 2 à 3 pour les comptes de forces de sécurité. Plusieurs blessés graves par balle. La ville de Lubumbashi vit au rythme des crépitements de balles. Lubumbashi, Narval Mabila, The Wafrique.
Le premier ministre congolais Sami Badibanga a lancé un appel au calme. On l'écoute.
Mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements. L'annonce de la formation du gouvernement d'Union nationale marque une étape importante dans le début de la mise en œuvre effective de l'accord politique global du 18 octobre 2016. Et c'est un symbole de paix, de cohésion nationale et d'espérance pour les futures élections et le bien-être social. Au moment où je m'apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité afin que l'ordre public soit strictement respecté dans le respect des droits et libertés de chacun.
La tension est montée au moment où les mouvements sociaux se réunissent à Dakar pour échanger sur leurs expériences. On écoute Fred Boma, l'un des leaders du mouvement congolais Lucha.
Ce qui se passe actuellement au Congo ne concerne pas simplement le Congo, ça concerne une bonne partie de l'Afrique et c'est important que pour moi, c'est aussi important d'être ici en ce moment et d'amener ensemble avec tous les autres collègues à cette solidarité de peuple en tant qu'Africain.
Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire pour aider la RDC à retrouver la sérénité aujourd'hui?
Nous voulons d'abord parler d'une même voix, montrer la solidarité à tout le peuple congolais, à tout notre peuple, et leur dire que l'Afrique tout entière est avec nous et que nous nous opposons, nous continuons à nous opposer au fait pour le président Kabila de s'éterniser au pouvoir. Et nous allons utiliser tous les moyens pacifiques pour le contraindre à respecter la Constitution.
C'était Fred Boma de la Lucha, joint par Abdourahmane Dia.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aboubacar Sidiki Diakité, l'aide de camp de l'ex-chef de la junte guinéenne, a été arrêté à Dakar. Il avait tenté de tuer le capitaine Moussa Dadis Camara en décembre 2009. Nani Talani.
Les autorités sénégalaises n'ont encore rien dit de cette arrestation, mais l'information a été confirmée par le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako. Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, a été arrêté par la gendarmerie sénégalaise et présenté hier à un juge d'instruction qui l'a placé en garde à vue. Il était en cavale depuis plusieurs années et se cachait sous une fausse identité à Dakar. Il était recherché par la justice guinéenne pour sa participation au massacre d'opposants le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry, où au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées. En décembre 2009, il avait tenté d'assassiner Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte militaire, lui reprochant de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité du massacre. Cette arrestation intervient quelques jours après un appel conjoint de plusieurs ONG pour que le procès se tienne en 2017.
À Berlin, la police a indiqué ne pas être certaine qu'un demandeur d'asile pakistanais arrêté soit le conducteur du camion responsable de l'attentat sanglant d'hier sur un marché de Noël. La police a appelé les citoyens à la vigilance. John Lyndon.
Le suspect est a priori un Pakistanais arrivé en Allemagne le 31 décembre 2015 par la route des Balkans et enregistré à Berlin en février comme demandeur d'asile, a affirmé en milieu de journée à la presse le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière. Il nie le crime, l'enquête se poursuit, selon M. de Maizière, qui précise qu'il n'existait pour l'instant aucune revendication de l'organisation État islamique. Mais peu après, le patron de la police berlinoise, Klaus Kant, a reconnu qu'il n'était en réalité pas certain que l'homme interpellé soit le chauffeur du camion meurtrier. La police a appelé au même moment à la vigilance sur Twitter, suggérant que l'auteur de l'attentat est peut-être toujours en fuite. Une source anonyme au sein de la police a indiqué au quotidien Die Welt : « Nous avons le mauvais homme, le vrai assaillant est encore en liberté et armé et peut provoquer de nouveaux dégâts. Ce drame, qualifié d'acte terroriste par la chancelière Angela Merkel, rappelle l'attaque au camion Bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale, et qui avait fait 86 morts.
Le principal responsable des questions de droits de l'homme aux Nations Unies a appelé ce mardi à une enquête sur le président des Philippines, Rodrigo Duterte, après que celui-ci eut affirmé qu'il avait personnellement tué plusieurs criminels présumés. Depuis son accession au pouvoir fin juin, Rodrigo Duterte est critiqué pour une campagne anti-drogue qui a causé la mort d'environ 2000 personnes aux mains de la police des Philippines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Cameroun inaugure 3 centres de formation professionnelle d'excellence construits à hauteur de 24 milliards de francs CFA par la Corée du Sud dans les villes de Sangmélina, Limbé et Douala. Dotés d'équipements ultramodernes, ces centres formeront des centaines de jeunes dans des métiers tels que la transformation du bois, la mécanique, l'habillement, l'électricité, l'électronique, l'informatique, le multimédia et l'hôtellerie. Cela va améliorer l'offre pour une insertion réussie de ces jeunes et des demandeurs d'emploi. La Banque africaine de développement accorde un prêt de plus de 769 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour financer la construction d'infrastructures routières à Abidjan. Ce projet permettra de construire près de 88 km de voies rapides, un pont, 6 échangeurs et la réhabilitation des feux tricolores de 89 carrefours. D'une longueur de 1400 mètres, le pont va connecter les communes du plateau et d'Adjamé à celle de Yopougon. Les travaux de construction devraient débuter en mars 2017 pour s'achever en décembre 2021. Et pour finir, en Afrique du Sud, Life Healthcare, un groupe spécialisé dans les services de soins de santé, indique vouloir envisager de mobiliser 757 millions de dollars pour financer l'acquisition d'un nouvel hôpital et réduire le poids de sa dette sur ses opérations.
Passons maintenant à l'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Cannes 2017, défection en série chez les Lions Indomptables.
Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football annonce la défection de plusieurs internationaux en vue de la Cannes 2017. Parmi eux, Joël Matip, le défenseur de Liverpool, qui met en avant sa mauvaise expérience avec le staff précédent, mais aussi plusieurs joueurs de Ligue 1, notamment André Zambo Anguissa, le joueur de l'Olympique de Marseille qui préfère rester en club et préserver sa place de titulaire. Même motif pour le Lillois Ibrahim Amadou. Quant à Guy Roland Diassambé, il ne sera pas non plus de cette sélection camerounaise lors de la CAN. Enfin, il est indiqué que Maxime Pungé, l'arrière-gauche de Bordeaux, a lui aussi décidé de jouer pour la France.
Et on reparle de la corruption à la FIFA.
La FIFA annonce l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire à l'encontre du Nigérian Amos Adamou, ancien membre du comité exécutif de l'instance, déjà suspendu 3 ans en novembre 2010 pour des soupçons de corruption dans l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Cette nouvelle procédure fait suite aux investigations menées depuis mars 2015 par la chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA. Cette chambre recommande une suspension de 2 ans de toute activité liée au football et une amende de 20 000 francs suisses.
Le football encore sur le plan judiciaire.
Oui, le tribunal arbitral du sport à Lausanne a réduit la sanction sur les transferts imposés par la FIFA au Real Madrid, qui reste toujours privé de recrutement cet hiver, mais pourra désormais engager des joueurs dès l'été 2017. Initialement, le Real, entraîné par Zinedine Zidane, avait été interdit de recrutement pour les 2 prochaines fenêtres de mercato pour des infractions sur les transferts des joueurs mineurs.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Oklahoma City a fini par s'incliner à domicile face à Atlanta, 108 à 110, malgré un Russell Westbrook géant avec 46 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. À Chicago, les Bulls se sont largement imposés face à Détroit, 113 à 82. Enfin, les Indiana Pacers l'ont emporté contre Washington, 105 à 107.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la RCA.
Oui, où selon Human Rights Watch, un nouveau groupe armé dénommé les 3R, entendait retour, réclamation et réhabilitation, a commis de nombreuses exactions sur la population civile dans les préfectures de Nanamambéré et Wampende, à l'ouest du pays. Ce mouvement a tué au moins 50 civils depuis sa création fin 2015. Selon l'ONG, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi, condamne avec véhémence ces actes au micro de Félix Yepassi Zembrou.
C'est depuis un certain temps qu'un homme qui s'est proclamé général du nom du Sidik a commencé d'abord par sortir au niveau de Bukaranga dans la circonscription de Kouy pour prendre qu'il venait protéger les verts peuls. Puis il s'est installé, il a fait introduire des armes dans le pays et à l'époque, les forces internationales étaient au courant et ils l'ont amené jusqu'à Bangui pour qu'il soit reçu par les autorités. Il est reparti et avec les questions du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, chaque personne veut accélérer ses actions ces derniers jours, occupant une partie du territoire national, et puis il se réclame des 3R.
Quelle est la position de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme face à cette situation qui prévaut justement dans l'arrière-pays?
La Ligue condamne avec la plus grosse énergie ce qui se passe dans le pays. Nous avons averti les autorités de la place qu'à force de tendre la main, soi-disant, aux malfaiteurs, nous risquons d'arriver à une situation d'anarchie. Quelqu'un ne peut pas quitter l'étranger, venir s'installer sur une partie de notre territoire sous prétexte que nous n'avons pas d'armée et puis que nous sommes sous embargo, et puis piller, tuer, violer librement et puis proclamer qu'il a créé un mouvement politique, militaire. Et demain, vous apprendrez que à force de ne pas être clair avec les malfaiteurs, nous risquons de nous retrouver avec des proliférations de groupes armés qui vont déchiqueter notre pays. Alors, je vous informe que la République centrafricaine aujourd'hui avait une partie qui était considérée comme la partie calme. Or, aujourd'hui, ce groupe de 3R commence à s'attaquer à une partie de la Nanamambéré et une grande partie de Wampende et est de nature à faire croire à la communauté internationale que le pays est pratiquement sens dessous, sens dessus sur tout le territoire national. Et c'était à nous de prendre des dispositions pour que ce genre de comportement-là ne voit pas le jour. Je vous informe dans la gravité que si ce groupe de 3R continue à sortir, comme on a les UPC, comme on a les FRC, on a de nombreux groupes qui se créent maintenant, vous risquez d'avoir aussi des groupes anti-Baraka qui vont se constituer en d'autres groupes qui vont faire en sorte que la République centrafricaine soit pratiquement considérée comme la Somalie.
Joseph Bindoumi est le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Cap sur le Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile se disent abandonnées par la communauté internationale qui ne finance plus leurs activités. Elles se sentent fragilisées dans leurs actions d'observation et de dénonciation des violations des droits humains, surtout durant cette longue période de crise électorale de Brazzaville. Les détails avec Nguyen Goussou.
Les ONG congolaises ne vivant que grâce à ces financements extérieurs n'ont plus depuis un certain moment les moyens de leurs actions. Et il est difficile de travailler dans un tel contexte, selon le secrétaire exécutif de la commission diocésaine Justice et Paix du Congo, l'abbé Félicien Mavungu.
Pour le problème spécifique du pool, il y a eu vraiment un engagement concret de la communauté internationale. Il y a eu des rapports, il y a eu des recommandations. Et j'ai juste un souhait. Voyez, et nous souhaitons vraiment que leur engagement soit plus visible, hein, et que qu'on améliore un peu le cadre de dialogue entre société civile, ceux qui nous gouvernent et communauté internationale.
pour Roch Eloge Nzobo, président du Cercle de réflexion pour les droits de l'homme, la communauté internationale a lâché la société civile congolaise au moment où le climat des droits et libertés fondamentaux s'est corsé dans le pays.
Les moyens sont insuffisants. Le contexte est difficile parce que nous avons en face de nous un système qui est en train de verrouiller toutes les initiatives de la société civile et, et même de l'opposition qui sont dans le sens d'aller vers les libertés et l'instauration de l'état de droit. Nous avons été surpris de voir comment est-ce que la société civile n'a pas bénéficié des appuis pendant toute cette période de crise qu'a connue le Congo. Il faut aller voir... écoutez, c'est vrai, on peut toujours critiquer la société civile congolaise en faisant des comparaisons avec les autres pays, mais je peux vous dire que ni l'Union européenne, ni le PNUD, ni les États-Unis ne nous ont apporté un quelconque appui pour faire l'observation électorale.
Sur le terrain, ces organisations de la société civile peinent à faire du monitoring sur les cas d'arrestation et de torture qui se poursuivent encore dans le pays malgré la fin du processus électoral. Et très peu d'informations crédibles sortent du pool, cette région toujours en proie à des vives tensions. Luamba Moké est le président de la DUC.
Comme le gouvernement ne finance pas la société civile, bon, on était vraiment en difficulté. Oui, ça faiblit lorsque vous n'avez pas de moyens. Et surtout le Congo, notre pays, la République du Congo, c'est un pays qui a des difficultés à avoir des bailleurs. Et c'est difficile de faire ce travail-là, le travail de la défense, de la promotion des droits de l'homme au niveau de notre pays, parce qu'on n'a pas assez de bailleurs. Et les bailleurs pensent que nous sommes un pays riche, un pays où le Congo peut financer les organisations de la société civile. Mais ce n'est pas le cas.
De nombreuses ONG se sont retrouvées à Brazzaville pour préparer leur demande de fonds à la communauté internationale, espérant que cette fois-ci, elles seront prises en compte. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après. Dans le deuxième volet de cette série sur VOA Afrique, notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, se penche sur les précautions prises et le travail du personnel soignant. Pour cela, il s'est rendu à Guéquédou, près de la frontière avec le Libéria et la Sierra Leone.
Après le passage de l'épidémie d'Ebola en Guinée, la prudence semble la règle de conduite dans les services sanitaires. Aoumadi Camara, surveillant général à l'hôpital préfectoral de Guéquédou.
Je pense plus que la même situation se répète. Au staff matinal, nous avons désigné des agents qui contrôlent dans les différents services comment l'hygiène est appliquée.
Fini la surprise, même son de cloche à Kissoudougou, Fassiné Camara, surveillant général de l'hôpital préfectoral.
Il faut le reconnaître maintenant que ça ne sera plus une surprise pour le personnel. Parce que chacun de nous est édifié, chacun de nous est informé, chacun de nous connaît ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on dit que Ebola est fini, mais pour le personnel, Ebola existe. Donc il faut toujours être dans les mesures de sécurité pour éviter une surprise désagréable.
Dans une salle de consultation, Karim Bangoura, médecin gynécologue, explique comment il se protège.
Depuis que la maladie là est venue chez nous, moi personnellement, je ne touche plus à une personne sans que je ne sois vraiment dans les normes. C'est-à-dire qu'il faut que mes mains soient gantées, il faut que j'ai une solution de désinfectant à côté.
Avec un bilan macabre de plus de 2000 décès et malgré la déclaration de la fin de l'épidémie, l'OMS et ses partenaires, y compris les autorités guinéennes, recommandent la vigilance. Du retour de Guéquédou, de Kissoudougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie a soulevé des inquiétudes sécuritaires dans la capitale turque. Ankara a déjà été secouée cette année par plusieurs attentats d'ailleurs. La Russie y a dépêché aujourd'hui une délégation pour enquêter sur ce meurtre. Eric Manirakiza a joint à Istanbul l'éditorialiste kémaliste, plutôt au quotidien de la gauche kémaliste, comme Kumhuriyet, Ali Sirmen.
À Ankara comme à Moscou, l'opinion générale prétend que cet assassinat est un sabotage pour saboter les relations turco-russes. Et il est très significatif que l'assassinat a eu lieu juste à la veille des entretiens entre les trois ministres des Affaires étrangères, Iran, Russie et Turquie. Et tout cela démontre qu'il y a un complot contre une solution à Syrie basée sur l'entente de trois pays, la Russie, l'Iran et la Turquie.
Mais un complot par l'intermédiaire d'un policier turc?
Oui. Ça, le problème énigmatique, c'est que c'est un policier turc qui a commis cet attentat. Et d'après les rumeurs qui sont en cours en Turquie, il est très probable que ce policier est un militant de Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, dont les partisans sont poursuivis d'une façon étroite par le pouvoir turc. Et il y a un autre problème énigmatique, c'est que le policier turc a été saisi mort. Or, il était possible de l'attraper vivante, et s'il était vivant, on pouvait éclaircir les questions suspectes.
Est-ce qu'il était dans le dispositif sécuritaire des lieux où il s'est improvisé et ils l'ont laissé entrer?
Ça, c'est un autre problème. Le gouvernement a déclaré l'état de déception, dont il y a des mesures très restrictives des libertés des citoyens, des libertés de presse et des libertés de démonstration. Or, toutes ces mesures extraordinaires n'ont pas servi à les établir l'ordre de la sécurité de la société. Donc, on se pose la question en Turquie. On dit, est-ce que le gouvernement qui était très sévère contre la presse, contre la liberté, contre la démocratie, est incapable d'assumer la sécurité et l'ordre des citoyens, la garantie, la sécurité des diplomates étrangers?
On associe à Fethullah Gülen, mais le policier, il a affirmé qu'il agissait pour venger Alep et la Syrie.
Oui, c'est une autre possibilité également. Il a déclaré ça. Mais il pourrait très bien être en relation avec Daesh. Au fur et à mesure que l'enquête se développe, on a saisi des documents qui démontrent que le policier avait des relations avec les partisans de Fethullah Gülen également.
Voilà, c'était Ali Sirmen à Istanbul.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, c'était Nachouane Calais. Présentation, Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Nous essaierons d'y répondre dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24h sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.